J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
à mardi sur deux
à 10h sur Radio Bartas 107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Vous êtes bien sur Radio Bartas, sur l'émission Palabre en forêt. Bonjour Virginie.
Bonjour Nathalie.
Alors, pour cette émission, comme pour l'émission de mai, nous allons également vous présenter un portrait d'un acteur forestier. Et là, en l'occurrence, ce sera une forestière qui va nous parler de son métier. C'est Christine Boyer du Centre Régional de la Propriété Forestière. Et puis, en deuxième partie d'émission, toujours Émeric Sulmon nous parlera d'une plante ou d'un champignon ou d'un lichen, on ne sait toujours pas. Tout ça forestier qu'il aime particulièrement. Et donc, ce sera en deuxième partie. Mais tout de suite, écoutons Christine Boyer.
Bonjour Christine Boyer, tu es technicienne forestière au Centre Régional de la Propriété Forestière Antenne du Gard. Donc tu t'occupes de tout le département et tu es basée à la Maison de la Forêt privée à Ribaute-les-Tavernes. Alors Christine, s'il te plaît, donc tu es la deuxième personne à passer dans notre nouvelle rubrique sur Radio Bartas, Femmes et Hommes des Bois, et tu es la première femme des bois, si j'ose dire, à participer à l'émission, merci. Alors comment es-tu arrivée à travailler en forêt et quand est-ce que ça t'est venu, pourquoi?
Alors, ben, moi, j'ai grandi à la campagne, dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. Mmh. Et je crois que le désir de travailler en forêt, ça m'est venu parce que ben, mes parents m'ont toujours appris à profiter des plaisirs et trésors de la nature à travers notamment beaucoup de cueillettes dans un milieu forestier, montagne. Voilà, on profitait beaucoup de la nature. Et ben, je pense que c'est ça qui m'a permis de développer un sens de la connaissance du milieu et puis le plaisir de l'observer. Mmh. C'est comme ça que j'ai eu envie de faire un métier en rapport avec la nature.
Et ça t'est venu quand vraiment que tu t'es dit je vais en faire mon métier?
Ben, quand j'étais au lycée. Voilà, j'ai commencé à faire des stages de découverte avec l'ONF, notamment.
Ouais.
J'ai fait mes stages, je sais plus, en seconde, avec l'ONF. Et donc après mon bac scientifique, j'ai intégré une école forestière. Enfin, j'ai recherché une école forestière et j'ai été prise en BTS au lycée de Poisy, dans Haute-Savoie.
On voit la formation que tu as suivie. Pendant cette formation, justement, il y avait des choses qui t'ont marqué, dont tu te souviens encore ou...
Ce BTS, il s'appelait à l'époque, maintenant il s'appelle gestion forestière, mais moi il s'appelait BTS production forestière. Donc c'est vrai que quand j'ai intégré l'école forestière, j'avais des notions en milieu naturel, botanique, voilà, parce que ça m'intéressait à titre personnel, mm-hmm. et que voilà, j'avais un peu baigné dedans. Par contre, c'est vrai que j'ai découvert complètement tout ce qui était sylviculture et notamment exploitation forestière, connaissance du bois. C'est des milieux que je connaissais pas du tout. Mm-hmm. Ce BTS, il est extrêmement riche en enseignements avec de nombreuses matières très diverses. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup intéressée d'apprendre tous ces domaines-là. Et puis c'est vrai que la richesse, elle venait aussi de la diversité des participants à la formation des élèves eux-mêmes, hein, parce qu'on est tous des quatre coins de la France, parce que moi, quand j'ai passé le BTS, il y en avait beaucoup moins que ce qu'il y a actuellement. Il y avait 4 BTS en France, donc on a intégré une des écoles et sur dossier, et du coup, on venait chacun de quatre coins de la France, oui, avec des itinéraires scolaires très différents aussi, parce que c'était la volonté de prendre des gens avec des itinéraires différents. Ça a amené une grande richesse dans les élèves eux-mêmes et dans leurs connaissances, dans leur approche de la forêt. Et puis, une grande richesse des enseignants aussi, qui étaient soit des enseignants de métier, soit des intervenants de la filière qui venaient faire des cours par BTS. Donc, c'était très riche et passionnant.
Mmh. Oui, donc de
très bonnes découvertes pour moi. Ah, voilà, oui. Des bons souvenirs.
Ok.
Et puis, on a eu la chance de faire des tournées forestières qui nous ont fait découvrir des milieux complètement différents. Hein,
en Haute-Savoie?
On faisait des tournées forestières. On en a fait 5 à travers la France. Le sud-est, l'ouest, le nord-est, voilà, on a fait toutes les régions de France et du coup ça nous a permis de voir d'aborder la sylviculture dans ces différentes endroits de France.
À la suite, du coup, où est-ce que tu as exercé?
Après le BTS, j'ai fait une année complémentaire à la fac à Marseille sur l'écologie méditerranéenne parce que c'était quand même quelque chose qui me passionnait, donc c'était plus pour acquérir des connaissances supplémentaires en écologie. Mm-hmm. Donc, c'était assez différent du BTS parce que je me retrouvais tout d'un coup dans un milieu universitaire, mais avec un groupe restreint, donc qui était basé sur beaucoup de sorties de terrain et une connaissance du milieu méditerranéen et puis aussi des connaissances sur l'écologie marine, des pollutions, etc. Donc, ça, c'était des milieux un petit peu nouveaux pour moi, mais intéressant à titre culturel. Parce que après, je m'en sers pas dans mon métier actuellement, mais on se sert toujours de ce qu'on a appris, hein, de toute façon. Et du coup, après cette formation-là, j'ai été embauchée au CRPF, d'abord en chargée de mission dans le département de l'Hérault, où je suis restée 3 ans, donc surtout avec des actions autour de la défense des forêts contre l'incendie. Mmh. Et puis, par ailleurs, j'animais des groupements forestiers aussi, dans le département de l'Hérault.
D'accord, les groupements forestiers, pour rappeler, c'est...
C'est un regroupement de propriétaires, c'est des personnes morales, hein, où les propriétaires ont apporté des parcelles de bois dans le groupement forestier et détiennent des parts en contrepartie dans ce groupement. Donc, c'est une forme de regroupement des propriétaires forestiers.
Voilà, donc ton premier métier en forêt méditerranéenne. Et on voit que tu avais fait ta formation dessus.
Oui, c'est vrai que je cherchais plutôt par rapport à mes formations et ma formation complémentaire universitaire, je cherchais plutôt à travailler en milieu méditerranéen et voilà. Donc, j'ai été embauchée au CRPF dans l'Hérault, où j'ai resté donc 3 ans et puis je suis après, toujours au CRPF, allée en Lozère pendant presque une année, remplacer le technicien du CRPF qui était absent. Donc, j'ai pris un poste de technicien forestier CRPF, où j'ai assuré les missions classiques. Je suis arrivée dans le Gard, où j'y suis depuis. Donc, ça fait 26 ans que je suis dans le département du Gard.
Donc, tu es un pilier de la forêt du Gard, voilà. Ouais. Et du coup, les missions de technicienne forestière, alors, tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, alors le métier en CRPF, c'est extrêmement varié parce qu'on passe par des missions très diverses qui vont de la visite conseil individuel à des propriétaires forestiers, l'organisation de réunions d'information, de formation sur des thématiques diverses autour de la forêt.
Oui.
L'appui au regroupement des propriétaires pour organiser la gestion. Donc, on a parlé groupement forestier, ça peut être des associations syndicales de propriétaires. La mise en place de parcelles d'essai, de démonstration sur le terrain, et puis la participation avec diverses actions de développement conduites par divers acteurs de la forêt et filière bois. Donc, c'est extrêmement varié. De par aussi extrêmement varié par la rencontre avec de nombreux partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Des collectivités, des structures de la forêt, et puis tous les intervenants du milieu naturel. Donc, ça donne une grande diversité dans la nature du travail. Puis peut-être ce qui donne aussi la grande richesse de mon travail et puis de ce travail en CRPF, c'est d'une part déjà que je travaille à l'échelle du département du Gard. Donc, c'est une chance, mais même si le département est grand, c'est extrêmement varié au niveau forestier. Puisque part-time de la Camargue avec des pinèdes à Pimpignan jusqu'aux montagnes de l'Aigoual ou du Mont Lozère avec une forêt de montagne.
Et oui.
De la vallée du Rhône aux Causses, puisqu'on a des Causses dans le département, et en passant par les Garrigues. Donc, c'est des milieux complètement différents qui donnent une grande richesse forestière.
Et tu peux nous dire justement combien il y a de propriétaires forestiers dans le Gard aussi, à peu près?
Il y a plus de, on part sur 47 000 propriétaires forestiers.
D'accord.
Donc, avec beaucoup de propriétaires qui ont de petites surfaces.
Oui.
Et aussi beaucoup de petites parcelles très éclatées dans le territoire. Donc, ouais. Ça donne une complexité dans la gestion puisqu'il y a un morcellement qui est très fort. Et donc, une grosse partie de notre travail, c'est déjà de mieux connaître, que les propriétaires connaissent mieux leur propriété, connaissent où elle se situe. Mm-hmm. Et puis après, les aider à la gérer avec cette difficulté de morcellement. Donc, ce qui nous amène parfois à créer des formules de regroupement de propriétaires ou regroupement de gestion.
Et entre le début de ta carrière alors et aujourd'hui, est-ce que tu trouves justement qu'il y a des choses qui ont évolué dans ton travail, dans la manière de le faire avec les propriétaires?
Dans la manière de le faire, oui.
Ouais.
Déjà de par l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure des années, bien sûr.
Oui.
Et puis, la grande particularité dans le métier en CRTF aussi, c'est dans la rencontre des propriétaires.
Oui.
Et ça, on s'enrichit au fur et à mesure de la rencontre des propriétaires. C'est des rencontres humaines avec des propriétaires qui sont différents. Mm-hmm. Différents de par leur capacité financière et humaine à s'investir dans la forêt, les motivations, de par leur origine sociale et leur histoire humaine. Mm-hmm. Et même des traditions et lieux de vie, parce que entre la zone basse du département et les montagnes, on a des façons de voir les choses différentes. Des fois, on peut rencontrer des gens différents, mm-hmm. Et des traditions différentes. Donc, à travers toutes ces rencontres, moi, je trouve que c'est un enrichissement par de l'expérience acquise. Moi, je leur apporte de l'information, mais eux, ils m'apportent aussi leur connaissance, leur savoir. Mm-hmm. Voilà, c'est beaucoup d'enrichissement et donc au fur et à mesure du temps, on s'enrichit de ça.
Oui.
Alors voilà, bien sûr, le milieu. Du coup, de toute façon, notre approche de la forêt et des propriétaires, elle change au fur et à mesure des années. Et puis, voilà, moi, je m'étonne toujours de. Je sais que quand je suis arrivée dans le département, je m'étais dit qu'au bout de quelques années, j'aurais fait le tour de mon métier.
Ah oui.
Du département. Et puis voilà, des années après, moi je m'étonne toujours, encore aujourd'hui, de découvrir des endroits nouveaux.
Oui,
ah ben des endroits où j'avais jamais mis les pieds.
Ouais.
des milieux différents. Et puis donc ça c'est super agréable de prendre ce recul.
Pas d'ennui.
Et puis c'est toujours aussi agréable de revenir même sur des forêts où on est allé, de voir les résultats d'une gestion qu'on a pu conseiller.
Oui.
De voir des arbres qui ont grandi, qui ont grossi, des semis qui apparaissent dans des forêts. Voilà, ce recul-là, moi, je trouve qu'il est intéressant.
Et tu peux nous parler justement de ton rapport aussi avec les arbres, avec la forêt?
Je suis assez... Je base beaucoup sur l'observation, mon diagnostic sur l'observation. Mm-hmm. Et sur peut-être... moi, j'aime pas bien être enfermée dans des principes ou des dogmes. Voilà, c'est l'école même.
D'accord.
Donc, je pense qu'on peut que toute gestion, elle mérite attention, mesure, de la tolérance, et que on peut avoir des itinéraires de gestion assez différents selon les milieux et selon les propriétaires qu'on rencontre. Moi, j'apprends toujours aux gens à bien observer ce qui les entoure.
D'accord. C'est toujours une évolution.
Donc, c'est peut-être ça mon rapport aux arbres, oui.
Est-ce que tu pourrais nous raconter si tu as eu un moment triste un jour dans ton métier ou dans une forêt?
Un moment triste, pas vraiment. Après, ce qui peut m'attrister des fois, c'est justement parce que moi, je suis assez attachée et fidèle à des valeurs et à mes origines. Donc, c'est toujours un peu douloureux quand je vois des propriétés où j'ai connu les gens qui se sont investis dans leur propriété, puis qu'il n'y a pas de suite, par exemple.
Ah, ouais.
Voilà, des forêts qui sont vendues, voilà, des sylviculteurs que j'ai connus qui décèdent, par exemple, et puis la famille derrière, les enfants, aucun attachement à la propriété, aux arbres et s'en défend. Ça, c'est peut-être ce qui m'a triste un petit peu souvent, c'est que voilà,
ouais,
pas de continuité. Et ça, c'est la règle en forêt privée, hein. C'est peut-être ce qui nous différencie avec la forêt de qui appartient à l'État, ou notamment, hein, où oui, il y a une continuité dans la gestion et dans le temps. Nous, en forêt oui, privée, ben, il y a des fois des sauts dans la gestion parce que ça appartient à chaque propriétaire.
Et oui, d'accord.
Un temps duré. Et puis, ce qui m'attriste peut-être aussi, c'est la disparition des forêts à travers ben, des accidents comme l'incendie, par exemple, oui, des forêts qui sont détruites, mmh, ou même l'urbanisation. Parce que, voilà, moi, j'ai eu des... Oui. Les forêts auxquelles j'étais attachée ou des essais, par exemple, je pense notamment à un protocole qu'on avait mis en place d'essais et des plantations qui poussaient très bien, hein, sur Nîmes, avec des noyers où on avait mis en place 8 hectares d'expérimentation sur la culture du noyer, sur des modes de gestion.
Intéressant.
Et puis voilà, l'urbanisation est passée par là et tout est détruit avant qu'on arrive à terme, et puis tous les efforts qu'on a fait pour éduquer les arbres qui sont anéantis par des conjonctures immobilières.
Ok. Voilà. Justement, t'as eu d'autres moments après heureux, joyeux?
Des moments joyeux, j'en ai plein, hein. Comme je t'ai dit, c'est le plaisir de retourner, de découvrir, de toujours découvrir en forêt et toujours découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles forêts, des nouveaux contextes forestiers, mm-hmm, quand je parcours le département. C'est le plaisir de rencontrer des gens qui sont très différents, comme je l'ai dit, mais très attachants, quoi. Je pense qu'autour des arbres et de la forêt, on crée des liens, et les propriétaires que je rencontre sont agréables, sont reconnaissants.
D'accord.
Ouais. C'est toujours un plaisir de les revoir et d'échanger avec eux. Mmh. Même si les années passent, il y a des gens qui te rappellent des années après, parce qu'il y a des sauts dans la vie où ils ont fait autre chose, où il y a eu d'autres occupations, et puis des années après, ils te rappellent pour qu'on se repenche sur leur forêt, et ça, c'est du plaisir aussi de voir que les gens, ils oublient pas.
Eh oui.
Voilà.
Ok.
Bon, c'est vrai que moi, j'attache beaucoup d'importance à l'humain à travers la forêt, parce que moi, quand je rencontre des propriétaires, on rencontre leur forêt. Donc, moi, je leur apporte mon regard, mon diagnostic sur la forêt. Mm-hmm. Mais je les questionne beaucoup et je les laisse beaucoup parler aussi sur eux et leur perception, sur leur motivation, parce que ça m'aide après à mieux pouvoir les guider vers quelque chose qui leur correspond. Ça, c'est important, à mon avis, de cet échange avec les gens.
Tu fais du sur-mesure.
Ben, je fais du sur-mesure. Moi, j'attache beaucoup d'importance à échanger, et puis de là, il met la confiance aussi avec les propriétaires.
Donc, et oui.
Pour moi, c'est important.
On essaie de faire un petit peu de magie dans Palabre Forêt, et du coup, on demande à nos invités si tu avais une baguette magique. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être changer à ta carrière passée et voir pour l'avenir?
Ma carrière passée, pas grand-chose.
Ah ben tant mieux.
Non, pas grand chose. Voilà, comme j'ai dit, même si je suis restée dans le même département, j'éprouve toujours du plaisir, toujours de la découverte. Donc ça, c'est plutôt bien. Mm-hmm. Et à l'avenir, non, je sais pas que ça puisse continuer à me procurer du plaisir.
Un jeune ou une jeune vient te voir et te dit, ben voilà, j'aimerais faire le même métier que toi. Qu'est-ce que tu lui conseillerais?
Ben, moi, quand je rencontre des jeunes, hein, qui viennent, parce qu'on a des demandes, hein, de stagiaires ou des jeunes qui nous demandent un petit peu, mm-hmm, moi, je lui conseille toujours, je lui dis que c'est un beau métier, bien sûr. et puis, je lui conseille toujours de faire une bonne école forestière d'abord, pour avoir des bonnes bases. Parce que, mm-hmm, à mon avis, c'est quand même, on le voit quand même dans le temps, c'est important. Mm-hmm. Et après, bah, qu'il faut garder les yeux grands ouverts et peut-être chasser les idées reçues et se faire ta propre expérience. Mais
ouais,
je conseillerais de poursuivre.
D'accord.
On a envie.
Eh ben oui. Pour achever cette interview, on demande à chacun de nos participants, bah, si tu as un petit mot forestier à ajouter.
Je sais pas. Moi, je dirais que la forêt, c'est aussi une aventure humaine.
Continuer l'aventure humaine dans la forêt. Alors, merci beaucoup, Christine Boyer. Au revoir.
Au revoir.
Nous venons d'écouter Christine Boyer, qui est technicienne au Centre régional de la propriété forestière. On va passer maintenant à un petit interlude musical avant de vous présenter une plante ou un lichen ou un champignon forestier. Et pour cette interlude, nous avons choisi, Virginie,
De partir à Hawaï avec Jack Johnson. Horizon has been defeated by the pirates of the new age. Alien casinos, well maybe it's just time to say that things can go bad and make you wanna run away. But as we grow older, the trouble just seems to stay. Future complications in the strings between the cans, but no prints can come from fingers if machines become our hands. And then our feet become the wheels, and then the wheels become the cars, and then the rigs begin to drill until the drilling goes too far. Things can go bad and make you wanna run away. As we grow older, horizon begins to fade, 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 fade away. But thingamajig's our puzzle, anger don't you step too close. Cause people are lonely and only animals with fancy shoes. And hallelujah, zigzag nothing, misery is on the loose. Cause people are lonely and only animals with too many tools that can build all the junk that we sell. Oh, sometime, man, make you wanna yell that things can go bad and make you wanna run away. But as we grow older, horizon begins to
Bonjour Aymeric Sulman, tu es garde-moniteur au Parc National des Cévennes et aujourd'hui tu vas nous proposer pour la deuxième fois la rubrique Plante des bois. Alors l'objectif hein, c'est que tu nous parles d'une plante ou d'un champignon ou d'un lichen. Voilà, et alors aujourd'hui qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter s'il te plaît ?
Eh ben, je vous propose de parler d'un champignon qui est assez typique, ou même spécifique, on peut dire, du bouleau, et qu'on appelle le polypore du bouleau. Mm-hmm. Alors, c'est un arbre qui signe en fait la faiblesse des bouleaux. Il est indicateur de sénescence. On parle de ça quand les arbres commencent à vieillir, commencent à être un peu malades. Le polypore du bouleau s'installe sur ces arbres-là et commence à les manger vivants, puis à finir de les manger morts ensuite.
Ah oui.
Et il est particulièrement intéressant, en fait, ce champignon, non seulement parce qu'il signe, en fait, des jeunes forêts, puisque les forêts de bouleau sont plutôt jeunes en général, ce sont de jeunes forêts. Il signe un peu la maturité. Oui, pardon.
Oui. Est-ce que tu peux nous dire le bouleau, comment on peut le reconnaître?
C'est un arbre assez simple à reconnaître puisque oui. C'est le seul arbre quasiment de nos forêts cévenoles qui a une écorce blanche, excepté peut-être, on a aussi le peuplier blanc qui a une écorce assez très claire. Mm-hmm. Alors le peuplier blanc, lui, il a des feuilles qui sont très blanches par-dessous. Et le bouleau, c'est plutôt un arbre d'altitude, en général plutôt montagnard chez nous.
D'accord.
Et qui a une écorce blanche qui a eu plein d'usages. L'écorce du bouleau, elle peut servir presque de parchemin. À un moment donné, on écrit dessus. Et puis, avec l'écorce du bouleau, on peut faire des choses très marrantes qui sont, quand on écorce les premières pellicules de l'écorce de bouleau, on peut faire des allumes-feu. On faisait des torches autrefois avec.
D'accord.
Ça marche fort, très très fort. On fait l'équivalent d'un pétrole avec ça. Pour revenir au polypore du bouleau, dont le travail en fait est de manger et de restituer en fait le bois de bouleau à la terre. Mmh. Et donc on appelle ça, c'est un recycleur de matière organique. Et ben ce polypore du bouleau en fait, il a plein d'usages médicinaux. qu'on redécouvre en fait, puisque a priori l'homme des glaces, que certains peut-être se rappellent, qui a été trouvé dans les années 90 entre l'Autriche et l'Italie. C'est un homme préhistorique qui était parfaitement conservé dans un glacier. Ouais. Et il était porteur de ce polypore avec lui. Il en avait, il avait trois champignons en fait. Il avait du chaga, il avait de l'amadouvier et il avait ce polypore du bouleau. D'accord. Et les gens se sont posé un peu la question pourquoi il avait ces champignons. Et en fait, il y avait entre autres des usages médicinaux, notamment de vermifuges, que la médecine chinoise continue d'utiliser. Et aujourd'hui encore, on se pose plein de questions sur ses propriétés anti-inflammatoires, anti-tumorales, et comme un immunostimulant. Et il est même utilisé en homéopathie pour des gens qui sont en phase de rémission après des cancers. Mais c'est assez particulier, voilà, ce champignon, d'accord, finalement, qui est synonyme de mort des arbres, et oui, il peut avoir des propriétés de soigner des maladies ou d'accompagner en tout cas des maladies assez sérieuses. Et c'est un peu l'idée de parler d'un champignon qui peut être vécu comme un signe de dépérissement d'une forêt, en fait. Oui, pas uniquement, au contraire, il prépare d'abord la forêt d'après. D'accord. Et puis on se rend compte qu'il a des usages qui sont encore assez méconnus, mais qui devraient progresser dans les années à venir.
D'accord.
Et pour terminer, je ne sais pas, moi, que tu aies des questions, mais c'est un champignon qui, nous, au Parc National, nous intéresse, non pas parce qu'il est rare ou particulièrement, il est vraiment pas particulièrement rare, il est même assez commun.
D'accord.
Mais c'est qu'il abrite toute une faune, notamment de coléoptères, qui sont assez remarquables. Et l'année dernière, on a pu s'en rendre compte en trouvant un coléoptère très rare qui était en train de manger ce champignon.
D'accord.
Et j'invite tous ceux qui baladeraient dans des forêts où il y a du bouleau.
Ouais.
Ce polypore, il est très facile à reconnaître. Il fait 10 à 30 cm de demi-diamètre, puisqu'il forme une sorte de console, comme une applique murale. Il est posé à même le tronc et il est assez souvent de couleur blanche à légèrement brunâtre sur le dos. Et donc, c'est vraiment, dès qu'on voit du bouleau un peu dépérissant, on va assez facilement le trouver.
D'accord.
Et donc, j'invite à regarder par-dessous. Parce que si on regarde par-dessous, okay, et qu'on s'approche lentement, vous allez voir toute une faune en train de le dévorer, notamment à cette époque de l'année-là. Entre mai et juin, il y a plein d'animaux qui sont en train de le manger en dessous. Et vous allez sûrement voir un coléoptère qui est très, très beau, qui ressemble, si on veut, un peu une coccinelle, qu'on appelle le diapère du boulet, et qui dévore ce champignon tranquillement. Donc lui, il est sans doute à l'abri de plein de maladies, puisque
oui,
il mange ce champignon.
D'accord.
Et nous, si on essaie de le manger, ça va nous faire drôle, parce que c'est quand même un truc, c'est comme si on mangeait du liège, donc c'est pas consommable comme ça, ça demande un certain nombre de préparations pour être utilisé en phytothérapie ou en mycothérapie, on devrait dire, puisque c'est l'usage des champignons, sous forme de tisane, voilà.
D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez encore, est-ce que tu as d'autres anecdotes?
Alors, il y a une autre anecdote assez rigolote sur ce champignon, le polypore du bouleau, c'est que la fine pellicule là qui le recouvre, qui est tantôt blanche, tantôt un peu marron, elle a des propriétés qui étaient utilisées depuis très longtemps pour aiguiser les couteaux. Alors vous savez que ceux qui aiguisent les couteaux finissent souvent leur travail avec du cuir parfois. Et ben certains utilisaient la pellicule de ce polypore du bouleau qui doit être légèrement riche en silice et qui doit fignoler, si on peut dire, l'aiguisage des couteaux. Voilà, c'est assez curieux. Et un autre usage qui est commun à pas mal en fait de polypores, c'est celui de transporter des feux. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un usage qui est complètement abandonné, mais depuis des millénaires peut-être, mais c'est qui s'est retrouvé chez certaines tribus amérindiennes notamment, et en Sibérie, où parfois il est intéressant de pouvoir conserver un feu couvant dans une matière qui peut être un polypore. Et le polypore du bouleau a pu servir à ça, notamment. Et il y a d'autres champignons aussi qui servent à ça. C'est-à-dire qu'ils ont la propriété de se consumer très, très lentement et donc de pouvoir être transportés pendant plusieurs heures d'un camp à un autre. Voilà.
C'est incroyable. Très bien. Eh ben, merci Aymeric Sulmon. Et oui. À bientôt pour une prochaine rubrique Plantes des bois.
Voilà, bonne recherche, à bientôt.
Merci, au revoir.
C'était donc Aymeric Sulmon et on est à la fin de cette émission de portrait. Rappelons que vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur Radio Bartas et les portraits des forestiers et des forestières sur notre site internet www.forêtcaustseven.fr. Et puis, bah, on se dit à la rentrée.
À bientôt. À la rentrée, bonnes vacances.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
à mardi sur deux,
à 10h sur Radio Bartas 107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.